Femmes libres.
Femmes qui se libèrent.
Femmes qui prennent la parole.
Femmes qui témoignent.
Femmes qui créent.
Femmes qui se révoltent.
Femmes qui luttent.
C'est Femmes libres
sur Radio Libertaire.
Reconnaissons-nous les femmes. Parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime les femmes. Ensemble, libérons-nous. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, debout.
C'est Femmes libres sur Radio Libertaire.
Vous êtes avec l'émission Femmes libres sur Radio Libertaire en compagnie de. Eh bien voilà, on est pris un peu de court ce soir, en compagnie évidemment de Sylvie qui nous fait la technique. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Hélène.
Et puis bonsoir Sandrine qui tout à l'heure nous fera son opus poétique.
Sandrine Malika pour vous servir.
Voilà. Et c'est la 21e émission pour cette année 2025. Ah, on arrive bientôt à la mi-année, hein, ça se sent là. Émission féministe et anarchiste pour combattre le patriarcat, le capitalisme, les religions, tous les pouvoirs qui nous oppriment, nous exploitent, nous discriminent. Nous sommes sur Radio Libertaire pour deux heures d'antenne de l'émission Femmes libres. Radio Libertaire, c'est la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité. La radio de la Fédération anarchiste. L'émission Femmes libres, c'est tous les mercredis entre 18h30 et 20h30. Et on peut nous suivre sur le blog que tient régulièrement Sylvie. Émission, alors sans accent bien sûr, trait d'union, femmes libres attachées et au pluriel, donc émission, trait d'union, femmes libres, .blogspot.com. Ainsi, vous pouvez réécouter les émissions, avoir le programme, mais vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Miss Cloud. Alors, au programme de ce soir, féminicide par compagnon ou ex, un opus poétique par le regard de ces autres mal nés d'Alexandra Crété, OLT que nous recevrons pour Séquence Libertaire. C'est une coédition des éditions Libertaires et des éditions du Monde Libertaire. Et puis des informations, des communiqués, des rendez-vous. Vous avez donc le programme et nous démarrons par les féminicides par compagnon ou ex.
Encore un drame de la séparation. À Metz, un gendarme a tué sa femme avant de se suicider.
Une mère de famille battue à mort à Montpellier. Selon les voisins, elle était prisonnière domestique.
Une marche est organisée pour une adolescente de 13 ans brûlée vive par son père.
Le jeune homme avait tué sa petite amie par jalousie.
Une nouvelle série de viols et de meurtres sordides de femmes en Inde et au
Pakistan. Du nouveau dans l'affaire Pistorius, le champion a été reconnu coupable d'homicide involontaire.
Une femme enceinte et ses deux enfants ont été retrouvés égorgés dans le Val-de-Marne.
Drame familial à Groix, un homme mis en accusation pour l'assassinat
le
de...
Le corps d'une Allemande vient d'être...
Ce ne sont pas des cas isolés, ce ne sont pas des accidents. Mettons un terme à ces cris machistes, reconnaissons le féminicide.
Chaque semaine, nous faisons état de la recension dans les médias, sur Internet, des féminicides par compagnon ou ex-compagnon en France. Chiffre toujours à minima. De nombreuses affaires non comptabilisés sont en surveillance et subissent l'omerta des parquets. Non, ce ne sont pas des drames familiaux, ni des drames de la séparation, ni des crimes passionnels. Ce sont des féminicides conjugaux perpétrés par des hommes frustrés qui pensent détenir un permis de tuer. Ce sont des assassinats systémiques dont l'origine se trouve au cœur de notre société, dans l'éducation patriarcale qui est donnée aux hommes et qui les autorise à posséder femmes et enfants, à disposer de leur vie. Le 31e féminicide, c'était le samedi 17 mai à Chasseneuil du Poitou, dans la Vienne. Véronique, 55 ans, a été tuée par son ex-compagnon, 55 ans, dans la résidence où elle vivait. Son corps a été découvert sur le palier du 4e étage. Rapidement, les soupçons se sont portés sur son conjoint, dont elle venait de se séparer. L'homme a été interpellé à Saint-Georges-les-Baillargeaux, dans la maison familiale. Il a été mis en examen, écroué pour homicide par conjoint le lundi 19 mai. C'est un féminicide. Le 32e féminicide, le même jour, le samedi 17 mai, à Périgny, près de La Rochelle, en Charente-Maritime. Alors que les pompiers ont été appelés pour l'incendie d'une habitation, le corps calciné d'une femme quadragénaire a été découvert dans le jardin, attaché par la taille à des palettes recouvertes d'un tas de bois. L'autopsie laisse supposer un décès antérieur à l'incendie et donc l'intervention d'un tiers. Son compagnon, quinquagénaire, est soupçonné de l'avoir tué. En fuite et activement recherché par la police, il a finalement été interpellé 3 jours plus tard dans la Creuse. Nous les citons, nous ne les oublierons pas. Le site sur lequel nous prenons ces informations, c'est www.féminicide.fr.
Ce ne sont pas des cas isolés, ce ne sont pas des accidents. Mettons un terme à ces cris machistes. Reconnaissons le féminicide.
Bonsoir. Donc pour cet opus poétique, je ne sais pas si Alexandra Creté nous écoute. Si oui, j'ai visiblement pas le bon numéro de téléphone pour l'appel, on aurait pour l'entretien. Donc Alexandra Creté, en fait, est enseignante en Guyane. Elle a donc écrit Par les regards de ces autres mal-nés, en coédition chez Atlantique Déchaîné et Le Merle Moqueur. Et c'est une écriture qui est très habitée, qui nous emporte, nous entraîne, elle sculpte les mots. C'est à la fois très imagé, c'est une, on pourrait dire, une sorte d'incantation, une femme comme ça qui est après. Alors, il y a l'amour perdu, mais c'est pas seulement l'amour perdu, c'est aussi la ville, la colonisation, les couleurs, les odeurs. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'est un seul texte, une sorte de très, très long poème, comme ça, qui part tout en déclinaison, qui est préfacé par l'écrivain Raphaël Confiant, et qui, lui, par exemple, pour quelques mots, écrit... à la lecture de ce beau texte d'apparence énigmatique, mais simplement traversé par une douleur secrète, je n'ai pu m'empêcher de songer à ce vers d'Aimé Césaire, dans lequel il est question du champ profond, du jamais refermé, celui des nègres, marrons, échappés des plantations, de leurs cousins créoles, assignés dans des villes qui n'en sont pas vraiment, des Amérindiens surtout, comme pétrifiés depuis 500 ans. Il y a vraiment dans ce texte une espèce de force comme ça qui est assez incroyable. Donc plutôt, oui, une incantation. Et donc Alexandra Cretté a fondé également une revue de poésie en ligne en 2020 qui s'appelle Oyapock. Alors Oyapock, c'est un fleuve entre le Brésil et la Guyane. Je suis allée chercher parce que je ne connaissais pas Oyapock. Donc j'ai découvert ce très beau fleuve à consonance, à consonance également poétique en quelque sorte, Oyapock. Et elle est également donc co-secrétaire à Sud Éducation. Et puis elle a longtemps œuvré dans le réseau antifasciste No Pasaran. Donc je suis très enchantée de lire quelques extraits et un peu déçue de n'avoir pas réussi à avoir la connexion téléphonique. J'ai dû mal noter un numéro, à mon grand regret. Donc je vais lire un extrait. Je prends en cours, ce n'est pas le début, mais presque. Alors, entre parenthèses, il y a écrit « Prélude de la femme chantante ». Nos mots de fièvre rougis, nos bouches de paroles lentes, tout le papier virtuel des écrans salutaires, et pourtant... rien ne peut apaiser notre soif. Strate de la terre américaine, incandescente en son sein, qui porte son deuil et l'odeur des tamarins sauvages. Roucou sanguinaire et anolie perdue, fin du vert Amazon. Lorsque je pousse lentement les feuilles de balourou pour voir l'ombre de ton corps, je coupe ma langue au fil de ton couteau et je danse. Sur les terres perdues, à la raison humaine, j'ai choisi de passer le reste de ma vie. Loin de tes terreurs, dans le silence blanc de ton passé sauvage, aux aguets de tes armes faussement lucides, dans un panier perdu, sur un fleuve de récits. Entre parenthèses, cœur des exilés. Nous avançons, nu, sur un fil barbelé, où nous créons ces géographies futures, ces archipels morcelés, ces langues hirsutes et soyeuses. Nous posons notre visage sur ta culture décimée. La mer va et vient au pas de notre maison. La nuit où ton ombre est venue pour la première fois manger les pieds de mon lit et boire le pas de ma porte. Ai-je cru à un rêve ou un amant déçu? Ne restait au matin que des fils suspendus à la poignée, comme les cheveux d'un ange ou le scalp d'un démon. Toi et moi, mon amour fragile, notre baiser posé, notre caresse percée, notre bonheur à genoux. Nos ailes s'ouvrent sur l'écorce de l'ébène et contre le chant du papayot. Une histoire, encore une histoire à ne pas oublier. Trop longue est la marche pour un peu de vie dans son âme et recueillir autre chose que le silence. Je préfère ouvrir ma porte aux grains perdus par les arbres sur la plage. Entre parenthèses, reprise du prélude. Qu'ils viennent, que je les recueille au bord de la mangrove, que tous viennent dans un seul élan, nous nourrir moi et mon âge affamé. Là ne seront plus cette nudité de nos vies, ces grilles ferrées et ces dévastations. Mon enfant ignoré revit sa peine dans chaque regard vide, à chaque main tordue, d'avoir mal fait ou d'avoir essayé. Que pourrais-je redresser grâce à l'ombre de mon cœur ? Mon amour, quelle plage se transforme en charnier ? Ce petit corps perdu dans les vases grises infinies de l'estuaire, il flotte comme un drapeau barbare. Mon amour, je ne sais plus si mon cœur est un fruit amer ou un trou d'abandon posé à ta fenêtre. Quelques miettes aux oiseaux blessés et obscurs, mais qu'ils viennent jusque dans mes bras ouverts. Et puis, tu n'es jamais plus venu me voir pour dresser mon amour contre toi, comme si j'avais mal fait ou mal dit, comme si je n'avais pas respecté notre jeu, encore une fois. Alors, cette incantation est aussi écrite tantôt il y a des petits exergues en italique, tantôt voilà l'annonce par exemple du prélude de la femme qui chante, le bidonville, au moment où on a l'homme, il dit, il y a des petits inserts comme ça pour nous orienter dans justement dans cette espèce de circulation du poème. Alors je vais en lire un peu encore. Je suis allée un petit peu plus loin, j'ai choisi un peu plus loin, donc. Donc là, c'est en italique, alors je ne peux pas dire à chaque fois quand c'est en italique, quand ça ne l'est pas, mais c'est à découvrir en lisant le texte avec les yeux. Je mange les ailes de tes oiseaux, tués par un chasseur insolite. Celui qui ne portait ni arc, ni flèche, ni arquebuse, ni fusil. Un chasseur armé de mots et de chants, le plus dangereux de tous. Et perdre encore. L'attaque du chemin qui monte entre deux barils bleus. De tambour la rue, de tambour la vie. La mort au tapis des rois. Parsème ton chemin de flamboyants jaunes et de ciel d'octobre rêvé. Le soleil violet allume les arbres blancs couverts d'aigrettes ce soir. Dans la présence du manguier, je pose mon dos sur l'écorce nocturne. Des buffles taciturnes plantent leurs sabots silencieux dans le sol mou. Entre parenthèses, Adagio en pleine rue de Sao Paulo. Un vieil aventurier est mort dans les décombres du colonialisme. Il ne reste de ses yeux que des ruses à découvrir et des amours à ne pas oublier. Où que se posent les Amériques, il n'y a que le carnage pour peupler les sous-bois. Un charnier inaudible, mais sûr et certain, dans les traces de notre histoire, comme un camailleux de sang sur les premières pages de la Bible. La ville, infinie et mobile, océan vertical de bruits et de particules, de taches et de niches, où chacun meurt, mange ou éjacule l'un au-dessus de l'autre, comme les fourmis peuplent les feuilles de traces rouges, comme les longicornes déplacent les montagnes de leur propre corps sans que le monde ne s'écroule. Là-bas, où je suis né, il n'y avait pas de rivière, il n'y avait pas d'arbres aux fruits repus et pas d'animaux languides aux yeux fendus sous les feuilles. Pas de moukou-moukou pour remplir le vide entre les berges grises. Des épiphytes métalliques suspendent des routes à d'autres routes. Des terrasses rouillées et vides aux toits de gratte-ciel décoratifs, fleurs parmi les fleurs. Et l'œil ne comprend pas s'il voit le début ou la fin de la ville. Tout comme l'œil ne comprend pas s'il voit le début ou la fin de la forêt. Quand ai-je su que je partirais pour vivre de l'autre côté du monde? À travers quel rêve ai-je cru voir la liberté? Tout ce que j'ai lu dans les livres comme en moi-même, jusqu'au premier et dernier sexe. Un petit extrait, à nouveau, un peu plus loin encore, sueur et chemise collée sur les cajots épais, pente de toit sur d'autres pentes rouges, rouges de tôle au-dessus, de tissus essorés, séchant au vent, cerf-volant, abritant, jeu, nourriture, par terre, et les mains des petits-enfants, épluchures de quenettes, rognures de dachines, pelures de melons d'eau, chiens jaunes errant dans les rues de Cayenne. Alors, j'espère vous avoir donné un aperçu de ce vraiment très, très beau texte. Et je vais du coup poursuivre un petit peu ce qu'écrit Raphaël Confiant. Donc, il dit, entre autres aussi, on entend une voix surgir des profondeurs d'un être blessé à jamais, qui évoque un amour perdu non pas seulement pour ce dernier, mais aussi pour une terre, ses forêts, ses rivières, ses rumeurs, voix qui, loin d'éructer ou de se complaire dans des épanchements faussement lyriques, dessine l'exact contour de son tourment. Entre terre amazonienne et anse d'île innommée, cette voix délivre un lamento qui n'est ni supplication ni désespoir, mais arpentage minutieux de chaque instant passé à devoir vivre en dépit de l'inéluctable. Elle scande, implacable, le non-dit de chaque jour, le découpe parfois comme au scalpel. C'est vrai que c'est une écriture donc très sculptée et voilà une musicalité qui s'imprègne, enfin, qui est imprégnée, qui imprègne le texte. Et donc on est vraiment complètement emporté. Alors je rappelle le titre. Et je lirai aussi un court texte, un inédit, toujours d'Alexandra Creuté. Donc le titre, c'est « Par les regards de ces autres mal-nés », en coédition « Aux Atlantiques déchaînés et aux mers le moqueur », donc d'Alexandra Creuté. Et j'ai un inédit, « Aéroport de Macapa ». Alors à un moment, je vais énoncer Euga, je ne sais pas si je le prononcerai bien, c'est écrit E-U-A avec un accent. Donc, aéroport de Macapa. C'est une longue nuit, électrique, pavée de murs blancs, silencieux et vide, fragile et éternel, comme un profond couloir de lumière sur fond de nuit. J'ai cessé de voir la silhouette de la ville, tombée dans l'ombre de l'autre côté du parking, et rien ne la fera se relever pour moi. Cette nuit, je tournerai sur l'Amérique comme un pinson aveugle, sans autre but que celui de partir dans l'artificialité totale de notre monde. Je poserai peut-être quelques regards sur l'horizon du ciel et n'aurai plus grand-chose à dire puisque je t'ai quitté. Soleil tombé au ras de la mer, de petites foules de tissus blancs s'avancent vers l'eau, dansantes sur les bords de l'avenue Bir Ahmar. Le chant, porté aux lèvres de tous, sonne le temps ancien. On le lance en coups de canne ou en tendre prière vers le ciel. Eyua, assise sur les possibles. Eyua, Dame Eyua, aux rares autels jaunes et rouges de tables, de chaises ou de paroles précaires, d'enchanteresse beauté, pionnière du pouvoir des mains et féminine guerrière qui gît entre les eaux douces du fleuve nommé mille fois, comme un limon salvateur et patient. Visage traversé du jour de la beauté, comme un samedi Gloria, sereine de force, fine de son être mythique, virtuose des serpents de grâce, ennemie de la parole sale, arrosée du goût de la laideur et de la trace trouvée du mauvais choix. Le chant ne rejoue pas la solitude, il danse des combats essoufflés depuis la nuit. Entre le corps, le repos, la faim et l'abondance. Dans les mots mêlés de terre, tous les croisements du monde se répondent et s'entendent. C'est elle, la porte protectrice des femmes aux mains pures, aux mains sans ligne, où rien ne dessine à la maternité. Les vierges dures, parées d'amants solides et silencieux, qui savent l'intimité sourde du désir. Eyua, tes yeux mangent le reflet de ton visage ébloui sur le miroir des fleuves. Un inédit, donc, d'Alexandra Creuté.
Troisième temps de l'émission en accueillant Holt. Alors, Je t'appelle Olivier ou Holt ?
Oh, les deux, c'est pareil.
Les deux. Bon, Holt, c'est ta signature. Mmh. Olivier, c'est ton vrai prénom, quoi.
Voilà, c'est ça, et le tout
O,
simplement.
Et le O, c'est bien le O de Olivier.
Tout simplement.
Voilà. Donc, on vient d'écouter Mama Béa, les anarchistes, parce que là, on va parler avec toi de ce bel album, Séquences libertaires, qui est une coédition entre les éditions du Monde Libertaire et les éditions libertaires. Voilà, donc les textes, je crois que c'est ta compagne.
Principalement, oui.
Voilà, MLT, et les dessins de Holt. Et nous avons Holt avec nous pour parler de ce beau, vraiment de ce bel album. Alors, c'est des dessins. C'est des planches, c'est des histoires. Moi, j'avais prévu, quand j'ai fait le programme, de dire que ce sont des planches qui illustrent par de courts récits les vies de celles et ceux qui veulent vivre libres, sans Dieu ni maître. On est bien sur Radio Libertaire. De révolution en répression et en liberté arrachée, les anarchistes restent debout contre tous les pouvoirs. Et c'est ça aussi qui apparaît dans ton album, c'est-à-dire que on démarre sur le, je dis pas de bêtises, sur le 19e siècle, on arrive à nos jours et il y a toujours des anarchistes et de par le monde, et pas simplement dans le monde occidental.
Mmh. Hein? Oui, bien sûr. En fait, c'est un recueil de dessins qui ont été faits sur plus d'une vingtaine d'années. Et on m'a demandé si je pouvais faire un album, un recueil, à partir de mes bandes dessinées, puisqu'il y en a pas mal qui passaient dans le monde libertaire.
Mmh.
Donc, c'est Jean-Marc Créneau des éditions libertaires et Philippe des éditions du Monde Libertaire qui m'ont proposé ça. Dans un premier temps, j'ai pensé que j'avais pas la matière.
Ouais.
Puis après, en recherchant dans mes archives, j'ai vu que j'avais de quoi faire une centaine de pages.
Mmh, mmh.
Et effectivement, c'était des petites séquences que j'avais fait au cours des années, au fil du temps.
Ouais. Alors, tu les as mmh. fait dans le Monde Libertaire. T'en avais fait une aussi pour Casserole, hein, mmh. je me souviens,
plus, c'est plus
plusieurs. Voilà, mais la première, je crois que c'était Nelly Strumel, il me semble.
Je ne suis pas sûr, c'est possible.
Non, voilà. Et puis, t'en as fait dans Chronique Noire et Rouge, mmh. Et où encore?
Alors, il y a plus longtemps, j'en ai fait pour Agora,
oui.
une revue libertaire oui. sur Toulouse.
Oui.
J'en avais fait pour La Brique, une revue alternative, dirons-nous, sur Lille.
Mm-hmm.
Donc un peu partout, quoi.
Ouais.
Au gré du vent. Et avec des copains, on avait fait un fanzine qui s'appelait Soleil Noir, et dans lequel on mélangeait bande dessinée, rock, punk, littérature, et un peu tout ça.
Ouais. Bon, alors là, on est rentré dans le vif du sujet, mais qui tu es, à part... Quand tu dessines, tu fais autre chose. Voilà. Si
travail,
tu peux te présenter.
Je suis maquettiste de
oui,
travail.
D'accord.
Sinon, l'itinéraire, j'ai été objecteur de conscience. J'ai travaillé à l'imprimerie de la Fédération anarchiste un temps avec Corinne, qui est décédée
oui,
récemment,
oui.
entre autres. J'étais...
Donc cette imprimerie, c'était Athénée.
C'est ça, oui.
Hein, ouais.
Donc en fait, mon travail c'est maquettiste.
Oui.
Donc en fait, ça recouvre. Donc la bande dessinée, c'est assez. Le lien est assez facile.
Oui, bien sûr.
Ouais. Donc je me suis intéressé à Internet aussi. J'ai fait plusieurs sites, dont un qui a été renouvelé il n'y a pas longtemps, qui était issu d'un groupe de la Fédération anarchiste en son temps. Donc on avait fait les éditions Partage Noir,
ah,
qui
oui.
étaient devenues indépendantes, qui sont devenues un site. Et donc, les copains qu'on tournait autour du groupe se sont un peu dispersés dans la France, mais on reste en contact. Et...
C'est pour ça qu'en bas de quelques-unes des séquences, il y a marqué « Partage Noir ».
Voilà, c'est ça.
Ah,
le
c'est
site
ça.
Est
D'accord.
toujours en
okay.
lien. Quoi.
Okay.
Les bandes dessinées sont publiées sur le ah. site, d'ailleurs.
Et alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du dessin, du graphisme?
Bon, ça, c'est un peu comme tout le monde à l'école, dans la marche des cahiers. Oui, ça, c'est le classique.
Oui. Quand on s'emmerde à l'école,
voilà,
quoi.
C'est ça. Les bandes dessinées, sinon, la découverte de bandes dessinées un peu plus militantes, je dirais, c'est dans les éditions Vaillant.
Oui.
Puis Gadget. Mmh. Tenez que mon père était instituteur, il refusait qu'on achète Mickey parce que c'était bourré de fautes d'orthographe.
Bon. Mmh.
Et c'est vrai que dans les éditions Vaillant, initialement, il y avait des choses qui étaient assez intéressantes. Il y avait le Gré les 7-13, le Résistant. Alors c'était... Il y avait Nasdin Hoxha, un rebelle contre les Émirats, enfin contre les califes. Il y avait d'autres personnages, Robin des Bois, enfin... Et donc c'était assez riche en personnes de gens et des dessinateurs qui avaient vraiment beaucoup de talent. Donc c'est là un peu le premier réveil. Puis après, bon, j'ai découvert les comics et d'une façon plus militante. Après, ça a été des choses comme des imports américains pour Anarchy Comics qui faisait un recueil de bande dessinée tous les ans, je crois. Enfin, bon, il y en a eu 4-5. Et il y a eu aussi Frémion et Volny qu'on fait les orgasmes et l'histoire. Donc ce mélange de bande dessinée et de militantisme, enfin, ou de personnes, de personnages ou de périodes historiques qui m'intéressaient ou qui disaient des choses, c'est ça qui m'a donné envie de faire ce type de bande dessinée. Quoi.
Et alors, du coup, toi, tu fais le dessin, mais tu écris ou c'est...
Enfin, alors, la collaboration avec Mireille, donc mon épouse, c'est je fais la maquette, je prépare, je mets les dessins et je place du texte avec une chronologie. C'est souvent un peu en vrac et à la limite du lisible. Ou même quand je crois que c'est lisible, elle repasse derrière puis elle me dit, bon non, il faut faire, faut que ça soit compréhensible par le commun des mortels. Donc il y a une collaboration naturelle qui se fait à ce niveau-là. Ou sinon, des fois, je reprends des textes de l'éphéméride anarchiste ou que je remette tel quel pratiquement avec peut-être des petites modifications pour que ça coïncide mieux à l'aspect visuel et voilà. Sinon par exemple le gros travail qu'a fait Mireille c'est principalement sur la bande dessinée sur Régénération, la publication des anarchistes mexicains et de Flores Magón, où là, il y avait un travail historique important qui avait été fait, une accumulation, mais à la fin, c'était vraiment du vrac, et elle a dû débroussailler là-dedans pour le rendre lisible.
Oui, parce que c'est ça, en une page ou deux, hein, quand il s'agit d'un personnage, il faut rendre l'essentiel de la vie de cette personne, comme c'est... Une personne militante, qu'est-ce qu'elle a pu faire? Voilà, c'est sûr qu'il y a des choix difficiles peut-être aussi à faire, non?
Qu'il faut pas...
pour tenir sur une page.
Bon, il se trouve que Régénération, la vie de Ricardo Flores Magón m'avait beaucoup intéressé, j'avais la matière. Là, je me suis lancé dans un projet quand même assez important en nombre de pages. Mais en général, j'essaie de concentrer pour pouvoir faire autre chose après, parce que j'ai toujours envie de faire autre chose. À la limite, j'ai même pas fini la bande dessinée, j'ai déjà envie d'en faire une autre, parce qu'il y a tellement de choses à traiter que...
Alors, comme on est dans l'émission Femmes Libres, on va surtout parler des femmes.
Oui, bien sûr.
Hein, et puis ça donnera envie peut-être d'aller découvrir les hommes. Alors les hommes, on peut là tu viens de dire déjà Flores Magón, mais on peut penser à Francisco Ferrer, on peut penser à Émile Bouget, évidemment. On va parler des femmes.
Justement, par rapport à Émile Bouget, c'est assez intéressant de voir le rôle qu'a joué sa compagne.
Oui, oui.
Et que je ne connaissais pas, je l'ai découvert. Mmh. Je crois que c'est en feuilletant Casserole, d'ailleurs.
Oui.
Où c'était évoqué.
Et... Parce que c'est Marianne Henkel qui a cherché qui était la femme d'Émile Bouget.
Ça m'étonne pas, elle fait un travail très important.
Oui. Elle cherche les femmes en ce moment, des militants.
Elle a raison.
Hein? Parce que un militant, et on le voit bien avec toute la famille reclue, par exemple, où la sœur qui... On parle toujours de... Élie et Élisée reclus. On ne parle pas de toute la famille qui a contribué. Et en particulier la sœur, quand Élisée est morte, c'est elle qui a rassemblé tous les textes. Mmh. Voilà, un travail énorme, mais personne ne sait que c'est elle, quoi. Voilà.
Oui, apparemment, Sophie Kropotkine aussi a fait,
oui,
fait un travail très important.
Oui, oui, oui. Alors, il y a beaucoup de recherches quand même, parce que tu t'inventes pas, enfin, tu peux pas inventer les personnages, là, ils sont connus. Des fois, il y a eu des livres, des fois, il y a eu un livre, des fois, il n'y a pas grand-chose.
Mmh. Alors, pour prendre Émile Pouget, donc, quand j'ai vu le rôle de sa compagne, donc, j'ai trouvé la photo, le cadre, après, j'ai redessiné avec un cadre londonien. Et à cette occasion-là, sur un site qui est passionnant, c'est Fragments de la gauche radicale. Il y a beaucoup de PDF, de revues, anarchistes et autres. Et sur d'autres sites, j'ai trouvé toute une série, la mère Pénard, ça existe.
Oui.
Alors des fois, j'amasse de la documentation, je n'utilise pas forcément, mais ça donne une idée de l'importance du phénomène.
Oui, bien sûr. Ouais. Ok. Bon, alors, moi j'ai repéré 14 femmes. Mmh. Tu les as comptées, toi?
Non.
J'en ai repéré 14. 14 femmes. Alors, comment tu les as choisies, puisque, en particulier, il n'y a pas Emma Goldman?
Parce que je la mets de côté. Il y a tellement de matière.
Ouais.
Il y a tellement de matière.
Tu feras autre chose.
Voilà, donc...
tu reprendras...
Par contre, Ito Noé, c'était un peu plus intéressant et excitant, parce qu'il fallait chercher l'illustration. Il y en avait quand même pas mal, j'étais assez surpris.
Ouais.
Et donc, c'est vrai que j'ai plutôt cherché celles qui ne sont pas très connues, parce que ça me permet de les connaître, faire connaissance. Alors qu'Emma Goldman, bon, Itinéraire avait fait un numéro sur Emma Goldman qui était très complet au niveau de l'iconographie. Et voilà. Sinon, Emma Goldman, le personnage a tellement fait de choses que, par exemple, j'ai fait une planche sur Lucia Sano...
Saornil.
Merci.
Ouais, alors je vais te dire exactement son nom, parce que on avait fait une émission sur elle il y a déjà longtemps. Lucia Sanchez Saornil.
Voilà.
Donc qui est née, elle, en 1895 et qui est morte en 1970. Moi, je ne l'ai pas connue, mais j'ai connu pas mal quelques-unes des copines de Maurès, Limbrès. Mmh. Voilà, j'en ai connu.
Et donc, tout ça pour dire que, par exemple, dans cette planche, Emma Goldman apparaît.
Oui.
Elle apparaît dans beaucoup de choses.
Oui.
J'ai fait une autre sur deux planches sur Arthur Lenning.
Oui.
Elle apparaît aussi.
Ouais.
Donc après, je ferai quelque chose sur elle. On est avec ce qui restera. Enfin, il y aura toujours matière.
Oui. Bah, surtout qu'elle a eu une longue vie. Elle a rencontré énormément de gens. Elle a même rencontré Louise Michel en Angleterre. Enfin, voilà. Et puis elle est allée en Espagne.
Et dans tous les débats aussi, par exemple, j'ai fait quelque chose sur Lucie Parson.
Oui.
Et Lucie Parson était en confrontation sur certaines idées avec Emma Goldman.
Oui.
Donc, même dans les débats sur d'autres personnages auxquels on ne s'attend pas, elle apparaît tout le temps.
Oui.
L'enterrement de Kropotkine, elle est là. C'est pour ça que j'ai rien fait spécifiquement sur elle pour le moment.
Alors, on va écouter Michel Bernard au cimetière de Levallois. Ça nous permettra d'évoquer, évidemment, Louise Michel.
Au cimetière de Levallois, drôle de belle au bois, tu dors depuis 100 ans, c'est fou, comme le temps creuse son trou. Au cimetière de Levallois, carré 20, te voilà. Un monument te fait de l'ombre, c'est pour fêter les hécatombes du chemin des dames au Djebel, la mort entasse sa gabelle. On s'entend, que d'idées nouvelles, le massacre à l'industriel, une race part en fumée, et le livre rouge est fermé. Au cimetière de Levallois, drôle de belle au bois, tu dors depuis 100 ans, c'est fou, comme le temps creuse son trou. au cimetière de Levallois, t'as des voisins de choix. Madame Soleil, Léon Zitrone, le bonheur en casaque jaune, le rêve en paillettes dorées, tu vois qu'on a fait des progrès. Ravel avec ses sortilèges et fait les atours sous la neige. Théophile, ton bel ami, mort aux cerises, sans un cri, au cimetière de Levallois. Drôle de belle au bois, tu dors depuis 100 ans, c'est fou, comme le temps creuse son trou. Du cimetière de Levallois, devine ce qu'on voit. Des tours aux 100 000 fenêtres qui lancent au ciel leurs grandes lettres. Apple, Hitachi, Paribas, le monde en mêle ses cabas. Une voie de chemin de fer longe le mur et s'en va faire un petit tour chez les onards où sont passés les communards. Au cimetière de Levallois, drôle de belle au bois, tu dors depuis 100 ans, c'est fou, comme le temps creuse son trou. Au cimetière de Levallois, un oiseau t'aperçoit. Le voilà posé sur ta tête, ses ailes te font une aigrette noire, comme un drapeau têtu, il sautille sur ta statue. Puis s'envole à travers la grille, qu'à tous les vents il éparpille cet air qui ne veut pas mourir, où l'on refuse d'obéir. Au cimetière de Levallois.
Voilà, au cimetière de Levallois, là où Louise Michel a été enterrée, même si sa tombe a bougé de place parce que ça devait déranger. En tout cas, elle est toujours au cimetière de Levallois. Alors, dans un premier temps, moi j'ai essayé de découper un peu, en suivant d'ailleurs le livre, hein. Tu parles de Lucie Parsons, de Voltairine de Claire, de Louise Michel, de Séverine. Voilà, ça fait 4 personnages là qui sont hautes en couleur. Mmh. Hein. Il y en a certaines qu'on connaît bien. On va dire qu'on connaît bien Louise Michel parce qu'elle a beaucoup écrit aussi. Hein. Et puis qu'elle a été récupérée par des tas de mouvements politiques, y compris par le Parti communiste. Séverine, on la connaît aussi, mais tout le monde ne sait pas que Séverine on peut la ranger dans chez les libertaires. C'est pas un truc qui est connu forcément. Et puis Voltairine de Claire, on l'a découverte avec les depuis 20 ans avec les bouquins qui sont sortis sur elle. Par contre, Lucie Parsons, il y a pas grand chose sur elle.
S'il y a des textes, si. Elle a écrit un peu quand même.
Oui.
Il doit y avoir l'équivalent de 2-3 brochures qui circulent.
Voilà, des brochures, mais au niveau du dessin, du graphisme, que t'as trouvé facilement.
Si, il y avait quand même un peu de matière. Ouais. Elle était très connue aux États-Unis,
oui.
Donc il y a eu des photos.
Ouais. Alors pour les gens qui ne la connaissent pas, c'était la compagne de... la compagne de... J'ai oublié son prénom.
Parsons.
De Albert, voilà. Albert Parsons. Elle était métisse. Hein. Et après la mort d'Albert Parsons, un de ceux qui a été guillotiné, pendu, eh bien, elle a pris une dimension politique très forte.
Hein. Oui, parce que c'est pour ça que l'album commence par le 1er mai.
Oui.
C'est qu'il y a eu un choc avec le martyr des 8 de Hyde Market,
oui,
qui a été énorme. Ça a marqué Edna Goldman, ça a marqué Voltairine de Claye. Et Parsons, donc Lucie Parsons, est devenue un symbole très, très fort. Et d'ailleurs, elle était mariée avec Albert Parsons et dans un coin où le mariage interracial était interdit. D'ailleurs, il y a toujours un doute, on ne sait pas trop si elle était métisse ou noire ou indienne, parce que bon, elle a joué pour la survie, quoi.
Enfin, il fallait
jongler avec la vérité.
Ouais. Et puis, elle est devenue une militante anarchiste, syndicaliste, vraiment. Après la mort d'Albert Parsons, hein. Sinon avant, ben, de toute façon, même Albert Parsons, les Américains, les syndicats le connaissaient, mais pas plus que ça. C'est bien leur mort à ceux qui ont été pendus après ce 1er mai qui a fait qu'ils ont été connus.
Enfin, ils avaient quand même une activité, ils publiaient des revues, Alarme, enfin, il y avait quand même une activité. Ils n'étaient pas inconnus localement, mais ça leur a donné une dimension internationale par le martyr.
Oui, comme martyr, oui. Alors après, tu parles, tu fais une planche sur Voltairine de Clare, et tu as mis un sous-titre, « L'anarchisme sans étiquette ». Alors pourquoi t'as mis ce titre,
ben, sous-titre-là ? Parce que c'est ce dont elle se revendiquait, c'est-à-dire qu'il y a une spécificité américaine, c'est une forme d'individualisme assez spécifique. Et c'est vrai que des fois, j'ai eu des difficultés à percevoir tout son discours. Donc elle avait un discours plus individualiste, mais au départ, ce qui ne l'a pas empêché de soutenir la révolution mexicaine par la suite. Mais elle se disait sans étiquette.
Et elle a... C'était une grande féministe aussi. Hein. Oui. Elle n'a pas élevé son enfant. Elle disait même que le mariage était une mauvaise action, hein, puisqu'elle a fait un texte là-dessus. Et c'est dans cette planche qu'on voit Emma Goldman... Puisque Emma Goldman, elle l'a écrit, disait de Voltairine de Clare, la femme anarchiste la plus douée et la plus brillante que l'Amérique ait jamais produite. Mmh. Et Emma Goldman, elle était la femme la plus dangereuse. Alors, donc, voilà, on a un miroir entre la dangereuse d'un côté et puis la douée et la brillante de l'autre.
Lucie Parsons était considérée comme très dangereuse aussi.
Très dangereuse, oui. Mmh. Et puis, quand elle avait eu... il y avait eu une tentative d'assassinat à son encontre... elle a eu une attitude
Voltairine
de Clare un peu particulière, hein. Je lis, ce serait un outrage à la civilisation s'il était envoyé, celui qui lui a tiré dessus, hein, s'il était envoyé en prison pour un acte qui était le produit d'un esprit malade.
Voilà. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu quelque chose d'approchant de la part de Louise Michel par rapport à la personne qui lui avait tiré dessus.
Oui, Louise Michel, il lui est resté une balle, je crois, hein, qui l'a fait souffrir d'ailleurs. Voilà, donc les deux premières personnes, on les situe aux États-Unis, Lucie Parsons et puis Voltairine de Clare. Après, on passe à Louise Michel. Et Louise Michel, bon, je sais pas, est-ce que tu veux dire quelque chose sur Louise Michel ou...
Il y a tellement à dire, c'est vraiment le mythe français. Vous pouvez parler à n'importe qui, c'est pour faire accepter le fait qu'on se qu'on se définit comme anarchiste, c'est une bonne porte d'entrée, quoi. En disant, ben, Louise Michel était anarchiste, les gens, il y a une sympathie énorme pour le personnage.
Et pas que chez les anarchistes.
Hein. Non, mais c'est très étonnant. Et d'ailleurs, c'est Pascal Bedos qui fait le site Anar Livre, avec qui on avait fait une brochure avec le site Partage Noir, sur les chansons dédiées à Louise Michel. Oui. Et c'est énorme, hein, des groupes, pas punk, mais enfin des groupes plus modernes. Michel Bernard a fait un album, je crois.
Qu'on a écouté, on a écouté un morceau tout à l'heure au cimetière de Levallois, c'était Michel Bernard, oui. Louise Michel a donné son nom à des... à des établissements scolaires, à des hôpitaux. Hein, voilà. Alors, établissement scolaire, si c'est en lien avec le fait qu'elle était institutrice, on le comprend. Les hôpitaux, bof, voilà. Mais là, tu en fais deux pages. Qu'est-ce que tu... tu termines évidemment avec son enterrement où il y a eu énormément de personnes. Énormément.
D'ailleurs, la préfecture de police craignait des débordements.
Ouais.
Ils ont eu très peur ce jour-là.
Oui, oui. Alors, hormis qu'elle s'est déclarée anarchiste sur la Virginie quand elle est partie au bagne de Kanaki. Hein, grâce à ces rencontres, c'est là qu'elle est devenue anarchiste. Avant, elle était blanquiste. Et on l'a connue, bon, le bagne, évidemment. Et puis après, quand elle est revenue, elle n'a pas arrêté. Hein. Mmh. Et puis, moi, ce que je retiens de Louise Michel, c'est comment elle a soutenu les Algériens au bagne. Et qui a fait qu'elle a été invitée en Algérie. Et c'est juste en revenant d'Algérie qu'elle était vraiment épuisée et qu'elle est morte. Mais elle faisait énormément de... Et là, tu le montres bien, de meetings.
Oui, des tournées en permanence. Ouais. D'ailleurs, j'avais reçu un courrier d'une personne qui disait « Mais non, la dernière tournée de conférence, c'était en Algérie et pas... en France, mais à peine arrivée d'Algérie, même malade, elle a repris des tournées.
Oui,
enfin, effectivement,
ouais,
c'était, ouais. C'était sans arrêt. Sans
ouais.
Arrêt.
Ouais. Mais c'est la tournée qu'elle a fait en Algérie qui l'a épuisée. Voilà, mais elle n'a jamais arrêté. Et puis, il faut dire que de tout temps, elle était toujours active. Quoi,
oui. Hein. Il y a une phrase assez jolie, d'ailleurs, de Séverine, c'est toujours avec les pauvres, ça peut vraiment s'appliquer avec Louise Michel.
Ouais. Alors là, tu fais le lien avec Séverine. Séverine, qui était née en 1855 et morte en 1929. Donc là, on avance dans ton album avec Séverine. Voilà. Et là, tu as choisi... L'épitaphe de Séverine, j'ai toujours travaillé pour la paix, la justice et la fraternité. Bah, c'est une parole qu'il faudrait reprendre là maintenant.
Mmh.
Hein? Moi qui viens d'écrire un livre sur, comme toi, hein, en reprenant mes articles, la guerre contre les femmes, les femmes contre la guerre, en faisant ce livre. En 2023, il y avait 59 conflits dans le monde. 59 conflits. Alors, on parle toujours, évidemment, de l'Ukraine, beaucoup du Proche-Orient, ce qui se passe à Gaza. On peut parler du Soudan, de la RDC, enfin bref. Séverine, elle était pour la paix. Hein. C'est là que tu le précises. Et en lien avec...
Jules Vallès, bien entendu.
Voilà. Avec Jules Vallès. Ça, c'est important, le cri du peuple. Alors, Jules Vallès, il y a Ducudus qui a mis sur la grille du Parti communiste, place du colonel Fabien, ses personnages.
Mmh.
Le seul personnage qui a été décapité par un passant, eh bien, c'est Jules Vallès.
Tiens.
Il a été décapité, donc finalement, ils ont retiré le personnage de Jules Vallès. Et je ne vois pas pourquoi on a décapité Jules Vallès. Parce que Jules Vallès est quand même, en tant qu'écrivain, là, ses trois livres,
le socialisme était plus unifié à l'époque. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la rupture qu'il peut y avoir maintenant. Quoi.
Ouais.
On pouvait très bien se dire socialiste sans être anarchiste ni parlementariste.
Ouais. Et du coup, à la mort de Jules Vallès, eh bien, Séverine a repris la direction du Cri du Peuple.
D'ailleurs, je crois que ça va être une des premières rédactrices en chef femme.
Ouais. Et là, tu le montres dans... Voilà, on la retrouve bien, hein, le visage.
Elle, il y a beaucoup de photos et beaucoup de peintures.
Oui, oui. On la retrouve bien dans les deux pages que tu as faites. Et puis, Séverine, elle, comme elle était contre la guerre, on la voit souvent dans des procès pour soutenir.
Et au-delà de ça, c'est vrai qu'elle écrivait dans beaucoup de publications. Elle avait beaucoup de succès. Et c'est vrai que ses positions anti-guerre lui ont coûté cher. Enfin, ouais. Là, c'est pas.
Voilà, donc ça, c'était les quatre premières qui sont relativement connues. Et puis après, on passe à Jeanne Imbert. Alors, moi, Jeanne Imbert, je la connais bien parce que j'ai milité pour le droit à l'avortement et la contraception. Et voilà, Jeanne Imbert fait partie du mouvement néo-malthusien qui nous a laissé un combat fort, quoi. Hein.
Alors, la planche sur Jeanne Imbert, c'est vraiment une toute petite partie de sa vie, hein, parce qu'il y aurait à dire avant, il y aurait à dire après. C'est vraiment sur son emprisonnement pour avoir fait de la publicité pour la contraception, parce qu'il y avait des lois qui interdisaient, il fallait faire des ouvriers, il fallait faire des petits soldats.
Bah, on était après la grande boucherie de 14. Les femmes devaient faire des enfants pour repeupler la France. Enfin, on a la même chose en ce moment avec Macron, hein, qui parle du réarmement démographique. On n'a pas changé. Hein. De toute façon, Macron, il a qu'un langage de guerre. Militaro, voilà. Oui, c'était les deux lois de 1920 et de 1923. Et je crois qu'elle a été... quand est-ce qu'elle est allée en prison? C'était en 1921, avec son compagnon. Hein, ouais. Voilà, elle a été libérée en conditionnel en 1922. Elle est restée quelque temps en prison. Lui, il est resté plus longtemps...
Lui, c'est tragique parce qu'il a été déplacé et il est mort en prison sous un bombardement anglais.
Oui, pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, il a été déplacé à Amiens.
Amiens,
oui. Amiens, et l'hôpital d'Amiens a été bombardé. Il est mort comme ça, c'est terrible.
Et dans le cas de Jeanne Imbert, ce qui est intéressant, donc, elle a beaucoup écrit et elle a écrit aussi dans la presse populaire. En décrivant la situation dans les prisons et en décrivant aussi le rôle des religieuses dans les prisons qui participaient activement au système carcéral. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que j'avais reçu un courrier d'une personne, d'une militante féministe, qui me reprochait d'avoir mis Louise Michel dans une pièce avec un crucifix. Elle n'avait pas compris que je représentais une geôle. Un document que j'avais trouvé où on voyait vraiment une geôle de prison. Et dans les geôles, il y avait le crucifix.
Bien sûr.
Et une collaboration de l'Église et du système carcéral qui était très importante, surtout pour les femmes d'ailleurs.
Ouais, plus pour les femmes. De toute façon, c'était que des religieuses hein, qui étaient dans les prisons jusqu'il n'y a pas longtemps. Hein. Voilà, enfin, pas longtemps. Jusque dans les années 70, on en trouvait dans les hôpitaux et dans les prisons. Hein. Alors, un autre personnage là qui est moins connu, mais chez les anarchistes, on l'a bien repéré, c'est Ito Noé, hein, une japonaise donc. Mmh. Et là, c'est bien que tu t'aies fait une planche sur elle parce que ça permet de parler aussi de son compagnon, Osugi Sakae. T'en as fait deux pages. Hein.
Oui, deux pages, parce que ça permet aussi de parler du tremblement de terre qui a servi de prétexte pour tuer les opposants.
Oui.
On a accusé les opposants d'avoir provoqué un tremblement de terre, quand même. Enfin, rien que ça. Il y a des choses assez énormes.
Alors, c'est aussi une féministe. Et ce qui est quand même très étonnant, enfin, moi, quand j'avais lu des choses sur Ito Noé, ce qui m'avait un peu surpris, c'est comment, alors qu'on n'avait pas Internet, on n'avait pas le téléphone, comment toute la littérature circulait.
Ça, c'est la qualité des correspondances qu'on peut voir dans les archives.
Ouais.
Et d'ailleurs, on parlait d'Emma Goldman, elle a traduit Emma Goldman.
Oui.
C'est comme ça qu'elle a rencontré son compagnon, parce qu'il avait repéré ses traductions d'Emma Goldman.
Ouais.
Elle est encore là.
Sur la tragédie de l'émancipation féminine. Oui, les textes circulaient. Voilà, c'est ça qui est extraordinaire.
Même les gens, enfin son compagnon, j'ai oublié son nom, avait été en délégation en Europe pour un congrès. Là, ils étaient pas vraiment d'un milieu ouvrier, mais dès qu'ils avaient la possibilité, des étudiants, ils n'hésitaient pas à voyager énormément.
Voilà, donc c'est l'occasion de découvrir Ito Noé pour les personnes qui ne connaîtraient pas. Et puis, Élise, alors moi, c'est pas quelqu'un que je connais beaucoup, Élise Ottensen-Jensen, née en 1886 et morte en 1973. Elle est où? Elle est là. Tu peux nous en parler un peu plus, peut-être?
Alors, je l'avais découvert dans le livre d'Augustin Souchy, Attention anarchiste, où quand il était déserteur, il a voyagé beaucoup. Et il avait été recueilli par Hotsen.
Oui.
Elle avait un surnom, j'ai oublié. Et son mari, qui était un des responsables de la SAC.
De la SAC,
du syndicat anarcho-syndicaliste suédois.
Mm.
Et donc, elle a joué un rôle très important sur la contraception. Et dans le cadre du syndicat, mais il y a eu des frictions. Ça a été un peu long comme travail, mais elle a imposé ça. Je crois même qu'elle a créé une société pour faire des contraceptifs. Enfin, et là-bas, c'est une institution. Il y a un timbre à son effigie. Enfin, c'est une militante connue et reconnue.
Elle était surnommée Otard.
Otard, voilà.
Voilà. Parce que c'est vrai que Élise Ottensen-Jensen, c'est peut-être plus facile des fois, de la surnommer Otard, qui vient d'Ottensen. Et puis, Margaret Hardegger, 1882-1963. Et là, c'était Patrick Schiller qui avait fait une brochure sur Margaret.
Oui, aux éditions du Monde Libertaire,
ouais,
il y avait petit truc. Mais il y avait surtout eu un travail de Marianne Henkel et du CIRA de Genève, avec une compilation des textes de l'exploité qu'elle avait fait. Or, elle était devenue permanente syndicale, secrétaire syndicale. Elle a fait un travail énorme en deux langues, en français et en allemand.
Enfin, elle était de Suisse, mais sur la partie à Berne. Donc, ça devait être en allemand, oui.
Voilà. Et donc, c'était une combattante, c'est pareil, elle a fini par être virée par la structure officielle du syndicat.
Mmh.
Après, elle est partie pour faire une communauté, mais elle a eu beaucoup d'activités, et elle a laissé beaucoup de textes aussi. En particulier, elle a eu un rôle assez déterminant dans une grève, dans une usine de cigares, je crois, de mémoire. Et ils avaient mené un boycott, enfin une action assez longue.
Ouais. Comme elle avait créé le périodique L'Exploité, ça a permis effectivement qu'elle laisse des traces écrites de tout ce qu'elle faisait. Et les ouvrières dans l'usine de cigares, c'était l'usine Vautier à Yverdon.
Voilà. Ah, c'est ça.
Donc une grève en 1907.
Et ça a duré.
Ça a duré.
Le contrat collectif sera effectif en 1909.
Donc ça a duré deux ans.
Voilà.
Deux ans, de mai 1907 à mai 1909, avec peu d'ouvrières, parce qu'elles étaient sept ouvrières. Qui étaient licenciées.
Oui, mais après, elles ont entraîné un mouvement plus important quand même.
Voilà, donc c'est l'occasion de découvrir Margaret Hardegger pour ceux et celles qui ne la connaissent pas.
Et elle a eu un rôle assez important dans ses liens avec Gustav Landauer pour l'antimilitarisme. Ils ont essayé de s'opposer autant que possible à la guerre.
Mmh. Écoute, maintenant, nous allons écouter Christiane Courvoisier à Galopard, parce qu'on va passer à la... on va dire à la sphère hispanisante ou italienne d'ailleurs.
Las tierras, las tierras de España, las grandes, las olas, desiertas llanuras, galopa caballo cuatrado, jinete del pueblo, al sol y a la luna. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A corazón suenan, resuenan, resuenan las tierras de España en las herraduras. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, 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 que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrados en el mar. A galopar, hasta enterrados en el mar. A galopar, hasta enterrados en el mar.
Voilà, eh bien, on vient d'écouter A galopar, un texte donc de Raphaël Alberti. Pourquoi ? Parce que dans Femmes Libres, nous accueillons, on ne l'a pas redit, nous accueillons Holt pour Séquence Libertaire, une coédition des éditions du Monde Libertaire et des éditions Libertaires, et qu'on est en train de tourner les pages de cet ouvrage, et on en arrive eh bien, à deux militantes, je dis hispanisantes, parce qu'on a Mika Echeber, et puis Lucia Sanchez Saornil, et ensuite on aura Marie-Louise Berneri. Mika Echeber, qu'est-ce que tu peux nous dire sur elle? Pourquoi tu l'as choisie? Parce qu'il y a un livre récent qui est sorti hein, sur elle, « Ma guerre d'Espagne à moi ».
Alors c'est un peu spécial d'un point de vue personnel, elle habitait dans le village où j'habitais quand j'étais tout petit.
Oh là là.
Mon père l'a croisée, elle était,
oui.
Elle vivait là, donc c'est vrai que ce qui fait qu'il m'avait donné le bouquin assez tôt. Bon, dans un premier temps, comme j'avais vu que c'était une militante du POUM, ça m'intéressait moins, puis après j'ai creusé un peu et c'était un peu plus intéressant que ça. Donc, ses parents, elle a fui la Russie, ses parents étaient juifs, elle a été en Argentine. C'est là qu'elle a rencontré son compagnon, qui lui était un militant marxiste, qui après s'est enrôlé dans les milices du POUM. Mais avant, ils étaient passés en Allemagne. Donc, ils ont vraiment un itinéraire. Bon, alors, il y a même des parties que j'ai pas pu mettre dans cette planche parce que c'est trop riche. En Argentine, ils ont fait des voyages en Patagonie. Enfin, ils ont vraiment, c'est vraiment un couple de révolutionnaires de cette époque-là. Et donc, ils sont arrivés en Espagne, en pleine guerre d'Espagne, après avoir constaté la faillite des partis ouvriers allemands à bloquer le nazisme. Et donc, ils sont engagés dans les colonnes du POUM. Mmh. Donc, son compagnon est décédé. Elle reprit la tête de la colonne.
Ouais.
Et après, ouais. Il y a, effectivement, comme tu dis, il y a un et plusieurs bouquins sur sa vie. C'est passionnant. On ne va pas pouvoir tout déployer là. Et le but de cette planche, c'était vraiment de donner envie de lire ce livre. Parce
ouais.
que
ouais. Ouais. C'est,
ou alors, il faut faire carrément un album. Et elle a été capturée par les Staliniens. Sans doute pour la liquider, bien sûr. C'est parce que les militants du POUM ont été largement massacrés par les Staliniens, avec une passivité de Trotsky assez remarquable, d'ailleurs. Et elle a été sauvée par Cipriano Mera,
qui était anarchiste.
Par les militants de la CNT. Oui. Et donc, elle a intégré les milices de la CNT et après le groupe Mourir à Libresse.
Oui.
Après, elle est rentrée à la fuit, bon, comme tout le monde la retraite en France. Oui. Elle n'est pas restée en raison de ses origines juives. Elle est repartie en Argentine pour revenir après la libération en France.
En 1946, oui. Et elle est morte en 1992. Hein, oui. Donc, à Paris. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça.
Non, elle a fini comme correctrice, hein, je crois.
Ouais. Elle avait 90 ans quand elle est morte, oui. Ouais. Bon, c'est un beau... C'est une belle planche aussi pour découvrir Mika Echeverría, ouais. Et puis Et Lucia Sanchez Saornil, là on se retrouve carrément en Espagne avec cette militante qui travaillait à la Telefónica, comme on disait à l'époque. Et tu peux nous en dire un petit peu plus de ce que toi tu as retenu en tout cas.
C'est vraiment un des piliers des Mourir Libresse.
Enfin, oui.
Donc très dynamique à ce niveau-là. Elle a tenu la rédaction de Umbral, qui était une publication
anarchiste
tenue par les femmes.
Oui.
Elle a côtoyé Emma Goldman encore.
Oui.
D'ailleurs, il lui avait consacré plusieurs fois des articles et des doubles pages quand elle a fait sa tournée en Espagne, parce que c'était vraiment une militante mythique.
Et on voit une photo d'elle avec Emma Goldman dans la rue.
Alors, elle est connue, mais par contre, ce qui était assez drôle, c'est que pour la commémoration de d'un anniversaire quelconque, en Espagne, ils avaient fait plein de communications et avec plein de photos où c'était absolument pas elle. Quand j'ai fait la recherche pour les cases, je suis tombé. Il y avait même une photo de Simone Veil, la philosophe, où ils avaient légendé que c'était.
Ouais.
C'était Lucia. C'était celle, sinon, dans la recherche de documentation, j'étais assez surpris.
Oui,
et donc il y a au moins une brochure qui a été faite par le CIRA de Genève sur Lucia, où elle parle de son homosexualité et de ses rapports avec les militants hommes. Enfin bon, c'est intéressant.
Ouais, c'est un personnage intéressant, tout à fait. Alors, on arrive à Marie-Louise Berneri, qui on arrive en Italie. Donc Marie-Louise Berneri, si je ne me trompe pas, elle est née en 1848, c'est ça? Oui. Et elle est morte en 1949.
49, oui,
c'est ça. Donc elle est morte à 101 ans?
Non.
Non, j'ai dû me tromper alors dans
ma date de naissance, probablement. Ouais.
Non, elle est née en 1918. Et elle est. En 1918. Et elle est morte en 1949. Et là, tu précises que c'est d'une pneumonie virale. Alors, Marie-Louise Berneri, qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi?
Déjà, c'est la famille Berneri, c'est riche en personnages. Il y a le père qu'on connaît, donc un Italien qui a fui la répression fasciste. Donc, qui s'est réfugié en France, qui a été expulsé de France, qui s'est réfugié en Belgique, qui a été expulsé. Enfin, il a vraiment sillonné l'Europe Et pour finir, bon, il a été combattre en Espagne.
Oui.
Et il a été liquidé par les staliniens.
Un de plus.
Voilà. Et donc, il y a donc le père qui a laissé beaucoup d'écrits très, très intéressants, donc, très pertinents.
Camillo Berneri.
Très critique et vraiment encore d'actualité. Il y a Marie-Louise Berneri. Il y a sa sœur aussi. J'ai oublié le prénom de sa sœur. Guiliana. Et il y a sa mère, Giovanna, qui a... Et c'est... Donc la mère et les deux filles ont eu une activité militante très importante, à tel point que dans une conférence anarchiste dans l'après-guerre en 1948, il y en a une qui représentait l'Italie, la mère, la sœur de Marie-Louise Berneri représentait la France, et Marie-Louise Berneri, je crois qu'elle représentait l'Angleterre. Ouais. Donc c'était trois femmes qui représentaient trois pays, c'était assez amusant, et de la même famille, elles étaient italiennes, d'origine italienne. Donc elle a eu comme compagnon Vernon Richard.
Oui.
On connaît surtout ses photos de Orwell. Orwell supportait pas d'être photographié et pratiquement c'est la seule personne qui l'a laissé le photographier dans son intimité.
Mmh.
Et donc elle a participé à la création de Freedom. Mmh. Et avant il y a eu Spain on the World, Revolt. Et les textes de Marie-Louise Berneri, il y a eu quelques traductions, quelques brochures, mais à ma connaissance, j'en connais pas d'imprimés. Et c'est des textes qui sont encore très intéressants sur le. Quand elle parle du bombardement des villes allemandes par les Anglais, il y a une lucidité. Enfin, un mort, c'est toujours un mort. Enfin,
ouais.
Bombarder des populations civiles, c'est toujours bombarder les populations
civiles. Bien sûr.
Et elle avait des visions très critiques comme ça et très, très pertinentes. Vraiment, ça mériterait un travail de traduction important.
Ouais. Alors, du coup, ça nous fait du lien avec une des femmes dont on n'a pas parlé tout à l'heure, Liliane Wolff, puisque elles sont toutes les deux ont œuvré dans Freedom.
Voilà le groupe de presse le plus important en Grande-Bretagne, qui continue encore actuellement, d'ailleurs. Et alors, la génération, c'est pas la même. Hein. Elle est née en 1875. Elle a toujours milité contre la guerre, principalement. Et elle a participé à toutes les publications antimilitaristes et anarchistes. Et jusqu'à la fin de sa vie. D'ailleurs, elle est morte assez tard, si je me trompe pas. Elle est morte en 1874, elle est née en 1875.
Donc elle avait 99 ans quand elle est morte, et elle est morte quasiment...
Presque centenaire.
Dans la librairie Freedom, quoi.
Oui, jusqu'au bout, et on voit cette dame terriblement anglaise qui distribue des publications, qui vend des publications anarchistes. Oui. Il y a des photos, et c'est vrai que c'est assez attachant.
Alors, justement, parce qu'on vient de parler de Marie-Louise Berneri, on va écouter la Lega. Et là, ça va nous réveiller.
C'est ben que siamo donne, paura non abbiamo, per amore i nostri figli, per amore i nostri figli. C'est ben que siamo donne, paura non abbiamo, per amore i nostri figli, in Lega ci mettiamo. La Lega crescerà e noi altri lavoratori e noi altri lavoratori. La Lega crescerà e noi altri lavoratori. Vogliamo la libertà e la libertà non viene perché non c'è l'unione. Cumiri col padrone, cumiri col padrone. E la libertà non viene perché non c'è l'unione. Sono tutti ramazzani, oli, oli, e la Lega crescerà, e noi altri lavoratori, e noi altri lavoratori, oli, oli, e la Lega crescerà, e noi altri lavoratori, vogliamo la libertà, se benché siamo donne, paura non abbiamo, abbiamo delle belle buone lingue, abbiamo delle belle buone lingue.
lingua, se benché siamo donne, paura non abbiamo, abbiamo delle bene buone lingue e ben ci difendiamo. Oh, Dio, Dio, là, e la lingua crescerà, e noi altri lavoratori, e noi altri lavoratori. Oh, Dio, Dio, là, e la lingua crescerà, e noi altri lavoratori vogliamo la libertà.
Toujours en compagnie de Holt pour Séquence Libertaire sur Radio Libertaire dans l'émission Femmes Libres. On voit que en feuilletant ton album, eh bien, c'est quand même la dimension antimilitariste hein, qui apparaît au travers de plusieurs de ces femmes, le féminisme aussi, parce que ce sont des femmes et que les conditions des femmes dans leurs époques et encore aujourd'hui, évidemment, il y a toujours à revendiquer. Mais l'antimilitarisme, c'est quelque chose qu'on a retrouvé la liberté. On vient d'écouter la chanson là, de la Lega. Voilà, liberté et antimilitarisme, c'est vraiment l'ossature peut-être, non ?
Bah, c'est pas un hasard si j'ai été objecteur de conscience, c'est bien évidemment.
Ouais.
Puis les massacres actuellement, c'est évident. Tiens, d'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais de l'Ukraine. Là, on voit de plus en plus de vidéos de femmes qui vont arracher leurs compagnons, leurs fils, des mains des recruteurs ukrainiens qui apparemment vont enrôler de force les gens dans la rue.
Ouais. Et puis, en Ukraine, on pense aussi à tous ces enfants qui ont été raptés pour les russifier. Oui. Hein, ça aussi, c'est quelque chose de très fort. C'est toujours la population civile maintenant qui trinque le plus. Hein, ça, c'est... Voilà. Alors, on termine avec deux militantes libertaires. Alors, Françoise Daubonne, avec qui s'inscrit dans le mouvement libertaire, mais qui était très, on va dire, très libre, hein, qui restait très libre de sa pensée, hein. Et puis Nelly Trumel. Alors, Françoise Daubonne, est-ce que toi, tu l'as connue
Non, pas du tout. Enfin, je connaissais de réputation, puisque au moment de Radio Libertaire, elle a participé un peu à Radio Libertaire à d'autres radios. Enfin, il y a eu des histoires un peu compliquées. Sinon, c'est son travail sur Louise Lacanac qui m'avait le plus intéressé.
Oui. Louise Michel Lacanac.
Alors, elle est ouverte aussi. Mais
elle c'est quand même. On l'a su après, hein, quand il y avait. Quand elle risquait plus rien. Mais c'est quand même elle qui avait fait un attentat contre la centrale Fessenheim. Hein.
Quand on relit ces textes dans la gueule ouverte, c'est pas si étonnant que ça. Quoi. C'est assez virulent. Je dirais.
Et puis les manifs saucissons, parce que c'est ça, moi je retiens de Françoise Daubonne. quand tu vas en manif, tu peux pas emporter un bâton, une matraque, enfin un truc pour taper sur les flics et sur tes opposants. Et ben elle, elle prenait des saucissons bien durs là, et avec tout un, ça tu l'avais dit aussi, hein, avec des féministes, elles sont arrivées en manif pour taper dans un meeting, les opposants aux droits des femmes, voilà, avec leurs saucissons. Et ça fait mal, mais les flics pouvaient rien dire, elles avaient le droit de transporter
d'avoir un saucisson.
Un saucisson, voilà. Ça, c'est Françoise Daubonne tout craché. Et quand on la voit à la télé, quand elle est interviewée, mais elle est impertinente comme c'est pas possible. Tous les gens qui sont interviewés pour un livre se tiennent à carreau et tout, mais elle pas du tout. Voilà.
Il faut lui reconnaître qu'elle n'a jamais couru après les grosses maisons d'édition,
non,
au contraire.
Non. Mais elle a fait beaucoup, beaucoup de livres. Beaucoup. Oui. Hein, et des livres, y compris pour les enfants aussi. J'ai découvert ça. C'était une militante du phare, hein, du front homosexuel d'Action révolutionnaire. Et voilà. Bon, c'est un personnage, Françoise Daubonne. Moi, je l'ai connue quand elle fréquentait Publico. Elle venait, y compris, écouter la présentation d'un livre d'un tel ou un tel. Je me souviens pas de qui c'était. Je me souviens que j'étais à côté d'elle, voilà, et que ça m'avait impressionnée de la connaître. Elle est morte en 2005 et son fils fait beaucoup d'actions pour continuer à la faire connaître et lui rendre famage. Alors Nelly Trumel, ah ben là on termine avec celle qui a créé l'émission Femmes Libres. Voilà, notre amie Nelly Trumel qu'on a, alors là, plus que connue. Moi, j'ai commencé à la connaître au début des années 80, donc jusqu'à son décès.
Difficilement passé par la librairie sans la croiser. Oui.
Et puis à la radio, elle a eu des responsabilités, elle était au secrétariat, mais elle a une... Il n'y avait rien qui la destinait à être anarchiste, ni même féministe, sauf que elle avait un père horrible qui la faisait... Il a maltraité.
Oui, pas mal de violence, on en
voilà.
a parlé.
Après, elle s'est mariée avec un type qui était violent aussi. Voilà. Et surtout, tu l'as dessiné, elle est rentrée à l'école polytechnique femme. Ce qui est quand même... parce qu'elle... Elle maîtrisait les maths, je crois, hein. Ce qui est quand même un peu étonnant pour quelqu'un qui était élevé dans la rudesse familiale, quoi.
Eh bien, surtout pour passer au domaine artistique juste après, quoi.
Oui, mais elle tient 2 ans parce qu'elle se marie, elle a 2 gosses, elle s'occupe de ses gosses, de Cathy, et puis j'ai oublié le nom du garçon, voilà. Et c'est là qu'à ses heures perdues, elle va au Louvre, hein, pour et tu la dessines là, en train de copier en autodidacte au musée du Louvre. Et puis un jour,
elle s'est mise à peindre.
Non, un jour elle appelle Radio Libertaire. Et elle vient, je peux t'en parler plus mieux que toi, excuse-moi, mais
non, je vous prie.
Elle vient à Radio Libertaire, donc elle est invitée, on l'accueille, voilà. Elle fait le ménage au début, hein, et puis elle pousse des disques. Et quand arrive mai 1986, là, il y a tout un mois où, je crois que c'est mai, oui c'est ça, mai 86, tout un mois où on parle du cinquantenaire de la Révolution espagnole, elle prend le bouquin de Marinache qui était sorti quelque temps avant, et sorti en 79 sur les femmes libres d'Espagne, et elle le lit, et c'est comme ça qu'elle a commencé à faire de la radio. Et après elle a rencontré le groupe de la Fédération anarchiste du 11e arrondissement, avec Laurent, qui est à la librairie. Voilà. Elle a... puis elle a tenu l'émission de 1986, où elle n'était pas encore féministe, mais elle avait lu quand même des livres. Elle avait lu... Elena Gianni Bellotti du côté des petites filles, elle avait lu d'autres livres, et en particulier Simone de Beauvoir. Je crois qu'elle a lu tous les livres de Simone de Beauvoir à la fin, mais pas au moment qu'elle démarrait ses lectures, c'est par la suite. Et elle a tenu l'émission jusqu'en 2012. Mmh. Voilà. Elle a eu un accident au pied. Et en 2013, elle est partie à Toulouse parce que sa fille se disait habiter à Paris, au 4e étage, sans ascenseur, avec un pied qui fonctionnait pas bien. Ben voilà, il fallait mieux qu'elle soit auprès de sa fille à Toulouse. Voilà, ben, c'est une façon... moi, j'ai beaucoup aimé parce que c'est presque l'avant-dernière page, Nelly Trumel. Et puis, on lui a fait un livre à plusieurs, aux éditions du Monde Libertaire et les éditions Libertaires. Co-édition aussi. Faut que ça germe, puisque quand elle est devenue peintre, qu'elle a commencé à créer, parce qu'elle peignait des petites miniatures qu'elle mettait à la librairie Publico. Moi, je trouvais ça pas terrible.
Ça avait surpris plus d'un moi-même. J'avais pas compris ce qui se passait.
Pas compris. Mais quand elle commençait à créer, hein, parce que la peintre, c'est la créatrice. Et là, elle a commencé par les pommes de terre, le légume du pauvre. Et elle est restée toujours en dehors du circuit commercial. Mais ça ne l'a pas empêchée de vendre, même y compris aux États-Unis, ses toiles. Voilà. Ben, merci d'avoir inclus Nelly Trumel dans ton album. Mmh. Ouais. T'aurais autre chose pour terminer ?
Pour rester dans le cadre du féminisme, c'est vrai qu'il y a encore plein de femmes
à découvrir
dans des planches. Je pensais à Ortega, une militante mexicaine pendant la révolution mexicaine, mais il y en a tellement. Alors après, c'est la documentation, effectivement, trouver les illustrations et compiler tout ça.
Oui. Oui, parce que toi, il te suffit pas d'avoir le texte, il faut aussi que tu aies quelques photos pour pouvoir construire tes planches.
Oui, puis pas tomber à côté, bien vérifier les sources.
Et pas mettre une Simone Veil à la place.
Par exemple,
de...
Oui. Ça peut même aller plus loin, c'est-à-dire que pour Saïd Mohamed, il y a une photo qui circule en présentant Saïd Mohamed. En fait, c'est un type d'Al-Qaïda qui est recherché par les autorités américaines. Mmh. Et par contre, on voit crédité Saïd Mohamed. J'avais utilisé, hein, j'ai dû modifier après. Et quand on recherche sur Internet, on cherche Pouget, on a des photos de Ravachol. Donc il faut faire assez attention quand même.
Ouais.
Ça fait partie du boulot.
Ben, merci à toi. On rappelle le titre de ton ouvrage, Séquence libertaire, texte MLT, dessin Holt, les éditions du Monde libertaire et les éditions libertaires qui se sont associées pour ton album. C'est 15€. On le trouve évidemment à la librairie Publico et dans quelques temps, on le trouvera dans toutes les bonnes librairies. On termine avec un texte de Léo Ferré, L'espoir, chanté par Sappho. Merci à toi.
Merci.
Dans le ventre des Espagnols, il y a des armes. Et qui attendent, et qui attendent
oiseaux finlandais vêtus de habanera. Des vikings au couteau tranchant la manzanilla, des flamenches de Suède brunes comme la cendre, des guitares des encordées et qui se pendent des amants exilés, dans les cloches qui sonnent la mort, qui se promènent aux bras de Barcelone, des taureaux traversés qui traversent l'histoire, des soleils fatigués qui les regardent boire un orient de misère, à la crotte engloutie les parfums de l'Islam, crevant d'Andalousie des pavés de flamenc, aux gestes anarchiques les rythmes du jazz band, pour les paralytiques les tam-tams de l'Afrique, à portée de guitare, de l'eau fraîche et de l'ombre, à jurer pour y croire une rue de Madrid, avec des fleurs fanées, un fusil de 36 qui revient s'y traîner. Espagnols, il y a des armes toutes prêtes, et qui attendent. Un accord de guitare au moment où l'on passe, un passeur langoureux. Avant le coup de grâce, la bouteille et la mer, dans un drugstore indien, un habit de lumière, et dans l'ombre du chagrin, la fureur pensionnée qui se croit dans la rue, des chansons caraïbes qu'on a perdu de vue, et des cigales fuyant le bruit des castagnettes, toutes les Amériques au fond d'une cassette exécutée à l'aube avec la stéréo. Le silence permis au-delà de Franco, des ailes de moulin plantées sur les maisons, Don Quichotte qui passe à la télévision, une chaîne en couleur pour avaler tout ça. Le sang avec la peine d'avoir la corrida, et 100 000 danseurs sur la place publique pour que Christophe Colomb découvre la musique. Allez, allez. Dans le ventre d'une espagnole, il y a l'espoir qui se gonfle et qui gonfle et qui attend et qui attend et qui attend. Manuel de Falla.
Passe à notre dernier temps de l'émission, des infos, des communiqués, des rendez-vous de l'émission Femmes Libres sur Radio Libertaire. Une nouvelle action du Front Féministe International, c'est un texte qui a été adopté par le conseil d'administration contre l'apartheid sexuel en Iran et en Afghanistan. Nous, féministes universalistes et laïques, luttons contre les extrémismes religieux. L'apartheid sexuel, tel qu'il est imposé dans les théocraties islamistes que sont l'Iran ou l'Afghanistan constitue une violence extrême contre les femmes. La communauté internationale doit condamner ce type de régime en tant que crime contre l'humanité, comme l'a été autrefois l'apartheid racial pratiqué en Afrique du Sud. Nous, membres du Front féministe international, demandons aux représentants de nos pays d'obtenir de l'AG des Nations Unies que la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid de 1973 soit étendue par l'ajout du mot « sexe » au cas de l'apartheid sexuel. La Ligue du droit international des femmes, Regards de femmes et Libre Mariam, membre du Front féministe international, prennent en charge la demande adressée au gouvernement français. Et c'est signé Marie-Noël Bas, Gérard Biard et Florence Moreno, responsables du Front féministe international. Le GAMS annonce un plan régional pour lutter contre les mutilations sexuelles féminines en Île-de-France pour 3 ans, 2025-2028. La Seine-Saint-Denis et Paris concentrent 40% de la population née dans un pays à risque et vivant en Île-de-France. Le plan, c'est prévenir, protéger, accompagner. Dans les outils, il y a un livret de 8 pages sur les mutilations sexuelles féminines, réparer, protéger, accompagner. Un poster, que vous soyez victime en danger, proche, témoin, ou si vous pouvez... Ici, vous pouvez parler des mutilations sexuelles féminines. Des professionnels sont là pour vous écouter, vous accompagner et vous protéger. C'est le texte du poster. Une vidéo de la directrice régionale GAMS Paris, qui s'appelle Alissata Ndiaye. Une vidéo de la chef de service au centre intercommunal André Grégoire, qui s'intitule « Réparons l'excision » et la chef de service s'appelle le docteur Sarah Abramovitch. Un annuaire des ressources en Île-de-France, un guide contre les mariages forcés par la ville de Paris, donc un guide qui a été créé par la ville de Paris avec ses partenaires institutionnels et associatifs. Et je rappelle que la Fédération nationale GAMS, c'est 14 passage des soupirs dans le 20e. Et là, on va écouter Rokia Bamba dans la campagne mondiale Parents protecteurs. L'excision s'arrête avec nous.
J'ai été protégée par mon père. L'excision s'arrête avec nous. Alors, je m'appelle Rokia Bamba, je suis originaire, plutôt mes parents sont originaires du Mali et de la Côte d'Ivoire, et je suis maman de 2 adorables enfants, un garçon et une fille. J'ai décidé de participer à cette campagne tout simplement pour sensibiliser les gens à la mutilation et aux excisions. Je pense qu'il y a un grand nombre de personnes ici en Europe qui ne sont peut-être pas au courant que cette pratique continue et perdure. Et donc, du coup, c'est juste pour qu'on entende des personnes qui l'ont subi et être à l'écoute. Je les ai vécues, tout simplement, au travers de ma maman qui a vécu l'excision. Le fait justement qu'elle m'en ait parlé assez tôt, à partir du moment où j'ai eu ma puberté, je pense qu'elle a essayé tout simplement de me dire que ça ne risque pas de m'arriver. Ce qu'elle a subi, elle ne voudrait pas que je le subisse. Et donc du coup, ça s'est arrêté à travers elle. ce sont mes parents, en fait, tout simplement mon père et ma mère. Chose assez rare. Je pense qu'il y a d'abord eu une prise de conscience due au fait qu'ils aient quitté les pays, la Côte d'Ivoire et le Mali, et qu'ils se sont installés ici à Bruxelles, que nous y soyons nés, mon frère et moi. Je pense qu'il y a eu un choc culturel qui a dû se faire, et de ce choc culturel, il y a une prise de conscience qui a évolué, dans le bon sens en tout cas en ce qui me concerne. Et donc mon père a mis le holà très vite. Il avait cette prise de conscience que ses sœurs allaient me prendre des bras de ma mère pour tenter de me faire exciser. Et pour me protéger, il me prenait systématiquement en déplacement avec lui pendant les vacances, parce qu'on y allait chaque année. Enfin, les résistants se sont vraiment situés du côté des sœurs, des grandes sœurs de mon père, parce que lui était le dernier de la fratrie, une fratrie de neuf, et toutes les filles ont été excisées, et le sont encore. Ça s'est arrêté avec mon père ici, mais le clan du pays, ça ne s'est absolument pas arrêté. Donc je remercie encore aujourd'hui mes parents d'avoir su résister, et je remercie vraiment mon père d'avoir eu cette intelligence de se dire « il n'y a que moi qui peux jouer un rôle décisif pour l'avenir de ma fille, et ma fille, je veux la protéger et je la protégerai jusqu'au bout. » Donc voilà, merci papa. Je dirais aux parents de résister, justement, d'entendre que c'est une pratique qui n'est absolument pas religieuse, de séparer ce qui est de l'ordre de la tradition, d'une tradition qui peut se perpétuer et d'une tradition qui n'a de sens que pour contrôler le corps d'un être humain et le corps de la femme. Et je pense que les parents doivent avoir cette prise de conscience que ce n'est absolument pas un rituel qui doit rester, c'est un rituel qui doit absolument disparaître. De s'opposer au clan. Je sais que c'est très difficile. Mon père l'a fait, et c'est de conscientiser les hommes, en fait. À partir du moment où moi, je suis une Bamba, donc j'appartiens au clan familial paternel, que ce clan familial paternel soit défendu par mon père, voilà. Et que, justement, ça ne fait pas partie de valeurs, en fait. Voilà, on ne met pas au monde des enfants pour leur faire du mal. On essaie de leur donner suffisamment de force pour qu'ils puissent s'ancrer dans des valeurs et que celles-ci puissent se perpétuer après. Mais ça, ce n'est pas une valeur à perpétuer. Donc, il faut la combattre à tout prix.
Oui, alors nous avons également la sortie du livre chez Agone, là, tout récemment, donc, intitulé « Femmes en armes, savoir en révolte, du militantisme kurde à la science des femmes ». Et donc, c'est de Somaye Rostampour. L'autrice donne à lire ici une généalogie inédite de la gynéologie au moment où les bases militaristes de cette pensée quittent la scène géopolitique. La science des femmes, comme le combat pour la défense des droits de peuple, si elle s'est développée au sein du PKK, a désormais les ressources pour avoir une existence propre. Mais il lui faudra se réinventer. Et cette réinvention peut s'appuyer sur un mouvement de femmes solides, déterminées et indépendantes. Donc, chez Agone. Mourerès, par Amande Hart, du 25 avril au 30 mai 2025. En fait, Mourerès, c'est une série de grands portraits de femmes inspirantes d'Amérique latine, d'hier et d'aujourd'hui. Et c'est donc au Café Fusain, 50 avenue Parmentier, Paris 11e.
Alors, dans les publications des éditions du Monde Libertaire, tout à l'heure, on recevait Holt. Ben, c'est le premier livre qui est sur cette liste. Séquence Libertaire de MLT et Holt. Et l'album est à 15 euros. L'anarchie des météores, une analyse savante et critique de la question climatique de Philippe Pelletier, 10 euros. Et le 28 mai, c'est-à-dire aujourd'hui même, un livre sort qui s'appelle Spirus Gay, l'acrobate anarchiste. Qui connaît ? ou a simplement entendu parler de Joseph Jean-Auguste Gay, 1865-1938, alias Spyrus Gay. Eh bien, si vous ne le connaissez pas, on vous invite à le lire. Et c'est 10 euros aussi. Et le 15 juin sera disponible le volume « Art, anarchie et émancipation » qui correspond au colloque dont tu vas nous parler. Alors, et qui se tiendra donc le 14 juin. Voilà.
Le 14 juin à Laherie, Montreuil, 57 rue Étienne Marcel, L'Aherie, c'est une structure, hein. 57 rue Étienne Marcel à Montreuil, où là on aura donc 12 intervenants durant ce colloque Art, anarchie et émancipation, où il sera question de la Commune de Paris, entre autres, de cinéma et d'anarchisme, de peinture, de féminisme et d'anarchisme, de danse, de quête de liberté, du parcours d'un chanteur libertaire, de Boal et du théâtre des opprimés, de la littérature ouvrière et paysanne, d'Élisée Reclus, de la peinture, de Joël Guéraud, Guy Gérard, etc. Rêve, révolte, révolution.
Eh bien, à la librairie Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e, métro République, Oberkampf, Fille du Calvaire. Librairie ouverte tous les jours, sauf le lundi de 13h à 19h30, du mardi au dimanche, et le samedi à partir de 10h. Là, en ce moment, une exposition jusqu'au 21 juin, Happy Finger Pochoir. Ce sont des pochoirs sur du papier craft de communard et d'autres choses, et d'autres thèmes. Happy Finger Pochoir. Et le dimanche 8 juin à 16h, ça sera un concert de Guillaume tout seul. La prochaine émission, ça sera le mercredi 4 juin 2025, de Eve à Philomène, sans oublier les autres. Ça sera Françoise Daubonne, une rediffusion, et cette fois-ci, on promet qu'elle passera, parce que la dernière fois, il y avait eu un loupé de ma part, de la part de la clé sur laquelle on enregistre. Et puis après, ça sera une co-animation entre Femmes Libres et Pas de Quartier avec Mariama pour Sous nos regards, récit de la violence pornographique, avec trois autrices, Adélaïde Bon, Hélène Devinck, Alice Géraud. Violence pornographique, je peux vous assurer que les affaires qui vont être ouvertes, les procès qui vont être ouvertes, vont aller bien au-delà de ce qu'on ne peut imaginer. On a eu l'affaire Pellicot, et bien maintenant, on a l'affaire French Bukake et Jackie et Michel. Voilà. Bonsoir, et féministe, tant qu'il le faudra. On termine avec Estelle, l'hymne des femmes.
Bonsoir.
Nous qui sommes sans passé, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, nous sommes privés de mémoire, debout, femmes en rage, et détruisons nos cages. Debout, 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 debout.
à la population. Colloque art, anarchie et émancipation le 14 juin 2025 à l'espace Aéry, 57 rue Étienne Marcel à Montreuil, métro Croix de Chaveau. C'est organisé par le groupe Communes de Paris. À partir de 10h, accueil avec le café, le thé, peut-être la chocolatine qui va bien. 10h30, Christiane Carlu qui nous parlera de la Commune de Paris et le luxe communal. 11h15, Nicolas Éprendre nous parlera de Reclus et la peinture. À 12h, Raphaël Romney nous parlera de littérature ouvrière et paysanne. 12h45, pause repas. À 14h, Fabienne Bruegel nous parlera de Boal et le théâtre des opprimés. Augusto Boal et le théâtre des opprimés, je vous le recommande. 14h45, Isabelle Marinon, cinéma et anarchisme. Et puis à 15h, Sandrine Malika, Charlemagne, film aux côtés d'Armand Gatti. Et 15h30, André Robert, la poésie visuelle, une esthétique anarchiste. 16h15, Amande Hart, Séverine, journaliste anarchiste. À 17h, pause, petit goûter bien entendu, avec petite restauration, à nouveau le café, à nouveau le thé et toutes ces sortes de choses. 17h30, Hélène Hernandez, Nelly Trumel, peintre féministe et anarchiste. 18h15, Priscilla Newell, danse, quête de liberté. 19h, Jean Aubel, parcours d'un chanteur libertaire. 19h45, Sylvia Krotowska, Joël Guéraud et Guy Girard, rêve, révolte, révolution, une anarchéologie du surréalisme. À 20h30, puisqu'il faut bien se quitter un jour, ce sera la clôture. En parallèle de tout cela, deux expositions, Amande Hart et Expo Surréaliste, avec table de presse toute la journée, table de presse de Publico et Radio Libertaire qui sera en direct.